Chapitre 22. Comment a commencé l'aventure de Jim en mer? Sur les 8 hommes tombés pendant l'attaque, 3 seulement respirent encore. Le pirate abattu près de la meurtrière, Hunter et le capitaine. Et sur ces 3, les 2 premiers ne se relèveront jamais. Quant au capitaine, ses blessures sont sérieuses, mais ne mettent pas ses jours en danger. Une balle lui a brisé l'épaule, une autre lui a déchiré le mollet. Après déjeuner, à la surprise générale, le docteur prend son chapeau et ses pistolets et sort du fortin. « Il va voir Ben Gunn !» devine Jim. Il fait terriblement chaud. L'air est irrespirable. Tout en faisant la vaisselle, Jim envie le docteur qui marche au frais à l'ombre des arbres. Tout d'un coup, il lui vient une autre idée. En passant près du sac à biscuits, il s'en remplit les poches. Il s'empare ensuite d'une paire de pistolets, d'une corne de poudre et de balles. Il va aller voir le coracle dont a parlé Ben Gunn. Une idée pas si folle en fait, car disposer d'une embarcation peut s'avérer crucial le moment venu. Pendant que les autres s'occupent du capitaine, Jim saute la palissade et s'enfonce dans le bois. Il se dirige droit vers la côte est de l'île. Une fois arrivé au rivage, où l'accueille le vent du large, il entreprend de longer la côte vers le sud jusqu'à parvenir en vue du mouillage. Caché dans d'épais buissons, il observe la rade où, abrité du vent par l'îlot du squelette, l'Hispaniola se reflète, le drapeau noir pendant à son mât. Déjà le soleil disparaît derrière sa longue vue. S'il veut trouver le coracle, Jim doit se dépêcher. Et de fait, le crépuscule est là quand il met la main dessus, dans sa cachette, derrière le gros rocher blanc. De prime abord, Jim est déçu. Le coracle est très primitif d'allure, et si petit qu'il a du mal à imaginer qu'il pourrait tenir dedans. Il y a pourtant un banc, un appui-pied et une double rame pour le faire avancer. Puisqu'il a trouvé ce qu'il cherchait, Jim devrait être satisfait. Seulement, il a une autre idée. À son avis, les mutins veulent reprendre le large au plus tôt. Ce sera leur jouer un bon tour que de profiter de la nuit pour ramer jusqu'à l'Hispaniola et couper son amarre. La nuit est désormais tout à fait noire. Sur l'île, on ne voit plus que 2 lumières. Celle du feu de camp que les boucaniers ont allumé dans le marais et la faible lueur qui marque l'emplacement de la goélette au-dessus du mouillage. Jim transporte le coracle jusqu'au bord du flot et le pose quille en bas sur la surface de l'eau. Chapitre 23. La marée redescend. Le coracle, j'ai eu amplement l'occasion de m'en apercevoir avant de le quitter, était une embarcation très sûre pour quelqu'un de ma taille et de mon poids, bien flottable et tenant la mer. En même temps, c'était le bateau le plus irrégulier, le plus difficile à diriger qui soit. Quoi qu'on y fasse, il dérivait toujours plus qu'il n'allait droit, et tourner en rond était la manœuvre où il excellait. Même Ben Gunn avait admis qu'il était délicat à manier, tant qu'on ne le connaissait pas. C'est sûr, je ne le connaissais pas. Il a tourné dans toutes les directions, sauf celle où je voulais aller. La plupart du temps, nous nous sommes tenus par le travers, et j'en suis sûr, je n'aurais jamais atteint le bateau sans la marée. Par chance, de n'importe quelle façon que je pagayais, elle m'emportait, et l'Hispaniola se trouvait là dans la passe, bien difficile à manquer. Elle s'est d'abord dressée devant moi comme une simple tache noire plus sombre que la nuit. Puis ses mâts et sa coque ont pris forme, et très peu après, car plus je m'éloignais du bord, plus le courant se faisait violent, je me suis trouvée contre son amarre, je l'ai saisie. Elle était tendue comme la corde d'un arc, et le courant était si fort que le bateau tournait sur son ancre. Tout autour de la coque, dans l'obscurité, les vaguelettes créées par le courant bouillonnaient et babillaient comme un torrent de montagne. Un coup de mon couteau et l'Hispaniola s'en irait avec la marée. Jusque-là, tout allait bien. Mais il m'est brusquement revenu à l'esprit qu'une amarre tendue, si on la coupe brusquement, est aussi dangereuse qu'un cheval qui rue. À 10 contre 1, si j'étais assez téméraire pour couper l'Hispaniola de son ancre, que moi et le coracle serions projetés hors de l'eau. Cette idée m'a arrêtée. Et si la chance ne m'avait pas particulièrement favorisée, j'aurais dû en rester là de mon dessein. Seulement la brise, qui avait commencé par souffler de sud-est et de sud, avait tourné au sud-ouest à la tombée de la nuit. Alors que je réfléchissais, une bouffée de vent a pris l'Hispaniola et l'a poussée à contre-courant. À ma grande joie, j'ai senti la mare mollir et la main avec laquelle je m'y cramponnais s'est trouvée plongée dans l'eau. Cela m'a fait me décider. J'ai sorti mon couteau, je l'ai ouvert avec les dents et l'un après l'autre, j'ai coupé les torrents du cordage jusque ce qu'il n'en reste seulement deux pour retenir le bateau. Puis tranquillement, j'ai attendu le moment où de nouveau, un souffle de vent ferait se détendre la mare. Tout ce temps-là, j'avais entendu des bruits de voix venir de la cabine, mais à vrai dire, mon esprit était tellement occupé ailleurs que je n'y avais pas prêté attention. Comme je n'avais plus rien d'autre à faire, j'ai commencé à tendre l'oreille. J'en ai reconnu une comme celle du quartier maître Israël Hans, l'ancien canonnier de Flint. L'autre était bien sûr celle de mon ami au bonnet rouge. L'un et l'autre étaient à l'évidence sévèrement ivres, mais ils continuaient de boire, car tandis que j'écoutais, l'un d'eux, avec un cri d'ivrogne, a ouvert la fenêtre de la poupe et a jeté quelque chose que j'ai deviné être une bouteille vide. Du reste, ils n'étaient pas seulement saouls, ils étaient également furieux. Les jurons pleuvaient drus comme la grêle, et de temps à autre me parvenaient des explosions de colère dont j'étais persuadée qu'elles ne se finiraient par des coups. À chaque fois, pourtant, la dispute passait. Les voix grognaient un peu plus bas pendant un temps, jusqu'à ce que surgisse la crise suivante qui s'estompait ainsi sans résultat. Sur le rivage, je voyais la lueur du grand feu de camp qui brûlait entre les arbres du bord. Quelqu'un chantait une vieille chanson de marin triste et monotone, avec un trémolo et une pause à la fin de chaque vers, et qui n'avait apparemment pas de fin, sinon celle de la patience du chanteur. Je l'avais entendu plus d'une fois pendant le voyage, et je me rappelais les paroles. Avec un seul homme d'équipage en vie, quand à 75 ils étaient partis. J'ai pensé que c'était une chansonnette plutôt cruellement appropriée à une bande qui avait trouvé de telles pertes le matin même. Mais en fait, d'après ce que j'avais vu, ces boucaniers étaient aussi insensibles que la mer sur laquelle ils naviguaient. La brise est revenue, la goélette s'est rapprochée dans l'ombre. J'ai senti la mare mollir de nouveau, et dans un ultime effort, j'ai coupé les derniers torrents. La brise n'avait que peu d'effet sur le coracle, et j'ai presque instantanément été balayé contre l'avant de l'Hispaniola. En même temps, la goélette a commencé à pivoter sur son arrière pour se retourner complètement au travers du courant. Je me suis activé comme un beau diable, car je m'attendais à me retrouver à l'eau d'un moment à l'autre. Comme je ne parvenais pas à écarter le coracle de l'Hispaniola, je lui ai fait longer la coque vers l'arrière. J'ai pu ainsi me dégager de ce périlleux voisinage, et au moment de donner une dernière impulsion, mes mains ont rencontré un mince filin qui pendait du bastingage de la proue. Je l'ai saisi. Pourquoi ai-je agi ainsi, je ne saurais dire. D'instinct, sur le moment. Mais quand je l'ai eu en main et que j'ai constaté qu'il était bien arrimé, la curiosité a pris le dessus. J'ai décidé d'aller regarder par la fenêtre de la cabine. J'ai halé le filin, et quand j'ai pensé que j'étais assez près, je me suis redressé à demi en prenant un risque infini. J'ai pu ainsi apercevoir le plafond et une partie de l'intérieur de la cabine. À ce moment-là, la goélette et son petit compagnon glissaient rapidement sur l'eau. Nous avions déjà atteint le niveau du feu de camp. Le navire, comme disent les marins, jasait fort, car il coupait les innombrables vaguelettes avec un clapotis permanent. Avant de regarder par la fenêtre, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi les gardiens du bateau ne s'étaient pas alarmés. Un coup d'œil à l'intérieur a suffi. J'ai juste osé un coup d'œil depuis mon embarcation instable. Il m'a permis de voir que Hans et son compagnon s'étaient empoignés dans une lutte à mort. Ils avaient chacun une main sur la gorge de l'autre. Je me suis rassis sur le banc, pas trop tôt, car j'étais à deux doigts de chavirer. Je ne voyais plus rien d'autre que ces deux visages furieux et congestionnés qui se balançaient sous la lampe. J'ai fermé les yeux pour le laisser s'habituer de nouveau à l'obscurité. À terre, l'incessante balade s'était enfin terminée. La compagnie rassemblée autour du feu avait pris en cœur la rengaine si souvent entendue. À 15 sur le coffre du mort, yo-ho-ho, et une bouteille de rhum. L'alcool et le diable s'étaient chargés des autres. Yo-ho-ho, et une bouteille de rhum. Je pensais justement combien l'alcool et le diable étaient occupés dans la cabine de l'Hispaniola quand j'ai été surpris par un écart brutal du coracle. Au même moment, il a dévié fortement et a paru changer de direction. La vitesse entre-temps avait étrangement augmenté. J'ai rouvert les yeux aussitôt. J'étais environnée de petites vagues légèrement phosphorescentes qui déferlaient avec un bruit sec et cassant. L'Hispaniola elle-même, à quelques pas devant moi, qui continuait de m'entraîner dans son sillage, semblait infléchir sa course. Je voyais les mâts osciller dans la nuit. En regardant mieux, j'ai constaté qu'elle virait elle aussi au sud. J'ai regardé par-dessus mon épaule et mon cœur a bondi dans ma poitrine. La lueur du feu de camp était là, juste derrière moi. Le courant avait obliqué à angle droit, emportant le grand bateau et le petit coracle qui dansaient. De plus en plus vite, toujours clapotant, toujours jasant haut, il se précipitait à travers la passe, droit vers la haute mer. Soudain, la goélette, devant moi, a fait une violente embardée, en tournant de peut-être 20 degrés. Il y a eu un cri à bord, puis un autre. J'ai entendu des palourds escalader l'échelle du capot. J'ai su ainsi que les deux ivrognes avaient cessé de se battre et pris conscience de leur situation désastreuse. Je me suis tapie au fond de mon misérable esquif et j'ai recommandé mon âme à son créateur. À l'extrémité de la passe, j'en étais persuadée, nous allions tomber sur une barre de terrible brisant où tous mes ennuis se finiraient d'un coup. Et si tant bien que mal je pouvais accepter de mourir, je ne supportais pas de voir ma mort approcher. J'ai dû rester prostrée ainsi des heures durant, ballottée par les tourbillons, éclaboussée par des paquets de mer, sans cesser de penser que la mort m'attendait au prochain plongeon. Graduellement, pourtant, la lassitude a pris le dessus. Un engourdissement proche de la stupeur s'est emparé de mon esprit, au milieu même de mes terreurs. Finalement, le sommeil est venu. Dans le coracle secoué par la mer, je dormais en rêvant de chez moi et de ce vieil amiral Benbow.